Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech & Co. Une nouvelle semaine bien chargée en actualité. Vous allez voir, il va y avoir des hauts et des bas, des trucs qui tranchent, des trucs drôles. Bref, un bon multijoueur comme on les aime. Et pour marquer ce multijoueur, le retour de Carole. Comment ça va, Carole Quinten?
Ouais, ça va très bien, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Ça fait un petit moment, où étais-je?
Je ne sais pas, je t'ai posé la question plein de fois, tu es trop occupée.
C'est vrai, je suis occupée, mais je suis ravie d'être de retour. Et puis on a un plateau quand même d'anthologie aujourd'hui.
Hein, parce qu'on a un petit nouveau avec nous cette semaine. Ouais. Il fait son timide, mais ça a super bien se passer, je lui ai dit. Flémo, comment ça va?
Ça va très bien, bah, merci de me recevoir. Timide, ouais, complètement.
Complètement
ça va être
timide.
Ça, le mot, mais bon, comme les enfants, je suis timide au début et après.
Voilà. Puis t'as deux folles. T'as deux folles face à toi. Ça va bien se passer. Grand spécialiste d'Elden Ring.
Oui, un peu.
Un petit peu. Léger créateur de contenu sur le sujet. Et c'est pour ça, vous vous doutez bien, s'il est là, on va en parler un petit peu parce que paraît que c'est un jeu qui intéresse un petit peu quand même les gens. Allez, on démarre avec l'actu à chaud tout de suite. Avant d'attaquer Elden Ring, on va parler d'un autre jeu qui a signé son retour récemment, c'est Top Spin. Et bien voilà, le nouveau Top Spin 2K25, donc vous vous doutez d'où il vient, arrive le 26 avril sur quasiment toutes les consoles. C'est le grand retour du jeu de tennis, Carole. On avait perdu de vue complètement le jeu de tennis.
Mais oui, et puis ça faisait combien de temps qu'on attendait un Top Spin? Ça faisait à peu près 13 ans, voilà, 13 ans à peu près. Voilà, c'est quand même un retour qui fait plaisir à tous ceux qui avaient pu goûter aux joies de la licence. Ça reprenait un peu les bases de Virtua Tennis. À l'époque, c'était début des années 2003, me semble.
Ouais, il y a 20 ans quasiment.
Nous étions jeune, bien évidemment, et fougueuse, mais c'est vrai que c'était un jeu qui, en termes de simulation de tennis, offrait quelque chose d'assez cool. Il y avait la préparation des tirs, il y avait quand même... Et puis c'était simple à prendre en main, dans mes souvenirs, j'y avais joué, il me semble, sur PS2, et c'était franchement cool. Donc même si je ne suis pas fan de jeux de sport, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont contents de son retour, et puis j'ai eu quelques retours, et ça a l'air pas mal.
C'était pas mal, moi j'y ai joué. Joueur de jeu de tennis ou...
Pas tant que ça, mais comme je l'évoquais, moi j'ai joué à Virtua Tennis sur Dreamcast, donc ça me rajeunit pas non plus.
Référence quand même.
Mais c'est cool pour les joueurs qui aiment les jeux de tennis, parce que tous les joueurs de foot, ils ont leur FIFA tous les ans. Là, personne n'a son Top Spin tous les ans, donc c'est un petit événement quand même.
C'était un petit événement. Alors, on en a discuté justement parce que je fais partie, en effet, des heureux qui ont pu mettre la main dessus. On en a discuté avec Rémi Ercolani, qui est le game director du jeu et qui nous explique que c'était le bon moment pour relancer la licence.
Aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'il n'y a pas eu de Top Spin, donc on est super content de ramener Top Spin sur le devant de la scène. Alors la base du jeu, on est vraiment reparti de la base de Top Spin 4, donc si vous avez déjà joué, les joueurs qui ont déjà joué à Top Spin 4 devraient s'y retrouver assez facilement au niveau des sensations de jeu. On a rajouté des choses pour rendre le jeu un petit peu plus accessible, donc il y a par exemple une nouvelle jauge de timing qui apparaît en temps réel pendant le jeu pour vous indiquer quand c'est le bon moment pour relâcher le bouton et avoir un timing parfait. On a également refait la mécanique de service, par exemple, pour que ça soit plus proche de ce qu'un joueur de tennis sur un terrain de tennis ressent au moment de servir. Donc une notion de risque sur le service par rapport à la visée. Est-ce que vous voulez viser près de la ligne et puissamment pour essayer de faire un ace, ou est-ce que vous voulez plutôt assurer votre service? Donc il y a ce genre de choses. Et on a complètement repensé la Top Spin Academy, qui est la partie du jeu dans laquelle on explique. John McEnroe vous explique, c'est votre coach dans le jeu. Il vous explique comment jouer au jeu, que vous soyez encore une fois un joueur... occasionnel, ou que vous jouiez à votre premier Top Spin, ou que vous ayez des dizaines et des dizaines d'heures sur Top Spin 4, vous aurez des choses à apprendre dans la Top Spin Academy. On essaie de faire en sorte que ce soit aussi clair et aussi complet que possible, pour que le jeu n'ait aucun secret pour vous, et que vous puissiez vraiment vous amuser et vous concentrer sur le choix de votre coup, de votre joueur, et ce genre de choses. Je sais que ce qui fait la force de Top Spin, je pense que c'est vraiment la passion de l'équipe pour le tennis. On essaie de retranscrire les sensations du tennis dans le gameplay, mais aussi dans la présentation des matchs. On essaie de faire en sorte que tout ce que vous voyez à l'écran, ça ressemble à ce qui se passe à la télé. C'est de faire en sorte que pendant 10-15 secondes, quand vous voyez quelqu'un qui joue à Top Spin, vous vous demandiez, est-ce que c'est quelqu'un qui joue à un jeu vidéo ou c'est quelqu'un qui regarde un match de tennis à la télé?
C'est vrai qu'il y a cette patte. Alors, c'est les jeux de 2K Sport. Hein. On pense à NBA 2K, c'est tellement réaliste qu'on en vient à oublier si on est devant un vrai match. Là, moi, j'ai eu vraiment cette sensation-là. Je pense que c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un jeu de tennis aussi, c'est que ça ressemble à ça ressemble à ce qu'on voit à la télé.
Bah oui, bien sûr. Et puis, c'est vrai que ça rend l'expérience immersive. C'est vrai que quand tu regardes du côté d'NBA 2K, on dirait des vrais matchs de basket. Moi qui ai joué très tôt à NBA Jam sur Super NES.
C'est vrai.
Je veux dire, on a eu vraiment... Oui, et puis après, j'ai arrêté. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, l'évolution. Et là, on regardait les images, c'est un vrai match de tennis, quoi.
Mais ça t'intéresse ou pas, toi, les jeux de tennis comme ça ? Est-ce que t'es un fan de tennis de manière générale ?
Alors, pas tellement, mais je regarde toujours mon petit Roland-Garros chaque année pour être un peu dans la cohésion sociale.
Ah, tu vas
sociale.
Être content parce que là, le cours Philippe Châtrier, moi, pour y aller aussi, d'accord. C'est ultra fidèle. Hein.
Ouais. Ah ben bah non, mais ça, Touquet, de toute façon, c'est leur marque de fabrique. Hein. Tout ce qui était NBA, déjà, c'était super fidèle. Enfin, quand je jouais à NBA Touquet, j'avais vraiment l'impression d'être dans un match de basket. Donc, non, c'est vraiment sympa à voir, quoi.
Mais c'est Hangar 13 qui est derrière ce jeu-là et qui est aussi derrière les Hangar NBA... Hangar 13, si vous voulez faire bien.
Mafia, les développeurs de Mafia, non ?
Et voilà, exactement.
Ah oui,
les développeurs de Mafia aussi, qui avaient participé à quelques NBA 2K. Donc, on retrouve évidemment la même patte. Vous aurez un mode carrière pour faire progresser votre joueur, le créer de A à Z. Il y a deux choses que je note qui sont très bien dans ce jeu. Ils ont Serena Williams et Roger Federer en ambassadeur, excusez du peu, qui ont fait eux-mêmes la motion capture. Et ça se sent dans les gestes, les glissades de Serena en fond de court ou le coup droit de Roger. C'est exactement ça, c'est assez impressionnant. Et là-dessus, au niveau de l'immersion, rien que ça, ça le fait. Pourquoi ils ont mis autant de temps ? Eh bien, parce qu'il faut dealer avec tous les joueurs.
Et oui.
À la différence d'un FIFA où on deal avec des clubs, une fédération et tout. Là, il faut dealer avec tous les joueurs. Ils ont annoncé une première salve de joueurs. Donc, on a Carlos Alcaraz. On n'a pas vu Nadal encore. À mon avis, il sera à la fin. On n'a pas vu Djokovic. On sait que c'est toujours Novak, le roi de la négociation.
Oui.
Je ne suis pas sûre qu'on le voit dans le rendu final. Mais voilà, il y a les stars du moment. Eux, ils estiment que c'est le moment parce qu'il y a un renouveau dans le tennis mondial.
Et puis, il y a les JO aussi.
Il y a les JO. Et puis, n'oublions pas, le tennis est un des e-sports olympiques. Alors, ce ne sera pas pour cette année pour Top Spin, mais ça peut être pour éventuellement dans 4 ans.
Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui disent déjà que c'est le meilleur jeu de tennis de tous les temps.
Franchement, il est bien. Franchement, on verra le 26 avril.
C'est ça. Voilà. Après, il n'a pas beaucoup de concurrence, a priori.
Ouais, non. Pas à ce niveau-là. À part Mario, pas vraiment le même style, mais... on vous fera un combat top speed Mario Tennis. Exactement. Mais donc voilà, réponse le 26 avril, le 23 avril pour les accès anticipé vraiment pour ceux qui auront acheté les éditions collector, machin. On va passer à un sujet qui vous intéresse beaucoup plus, messieurs, dames, Elden Ring. On voulait en parler il y a quelques semaines, on n'avait pas eu le temps parce qu'il y avait trop d'actualité. C'est le moment. Il y a un DLC qui est arrivé. Alors, on ne dira pas sorti de nulle part parce que ce n'était pas vraiment ça. Mais qui est là, qui a popé, annoncé à minuit, a passé l'après-midi et qui a mis en émoi tous les fans d'Elden Ring. Expliquez-moi pourquoi. Qui se lance déjà pour me raconter ce trailer, ce qu'on a pu... Plémo, qu'est-ce qu'on a vu dans ce trailer ?
Oh là là, on a vu beaucoup de choses.
Shadow
après, il faut être Shadow of the Earth Tree qui arrivera donc le 21 juin. Donc il a été annoncé donc pour les 2 ans du jeu, l'anniversaire. Ce qu'on voit en gros, c'est qu'on va, alors faut connaître évidemment l'histoire d'Elden Ring, mais on va suivre en fait les pas de Mikaela, un antagoniste supposé du jeu de base qu'on ne connaît que au travers de récits un petit peu énigmatiques, et on va devoir en fait le suivre dans ce royaume des ombres. Et trouver un petit peu ce qu'il fait là et pourquoi il est là, pourquoi ce royaume est caché en fait aussi du jeu de base, de l'entre-terre. Et il y a tout ce mystère autour de ça, quoi.
Quand tu dis caché, est-ce qu'il faut avoir fini le premier jeu pour y accéder ? Est-ce qu'il faut avoir fait des choses particulières dans le... Il faudra ou pas ?
Vas-y, Carole.
Alors, il faudra avoir battu obligatoirement 2 boss. Ouais. Donc l'un qui s'appelle Radahn. Et d'ailleurs, ça questionne beaucoup de joueurs parce que... Pourquoi battre ce boss-là en particulier ? Mais encore une fois, il faut connaître un petit peu le jeu de base. Et un autre qui semble plus logique à battre, c'est Mog, dont dépassera le bras, un bras tuméfié, abîmé de Mikaela, le Mikaela en question. Et c'est de cette manière-là dont on va dans la partie, effectivement, du DLC. Donc, beaucoup de joueurs se posent des questions. Ça donne lieu à tout un tas d'interprétations, de théories. Mais ce sont vraiment les deux choses qu'on devra faire pour pouvoir accéder au DLC, sachant que ce sont quand même 2 boss assez, assez violents. Hein.
Ouais. C'est des boss en début de jeu ?
Alors, il y en a un qu'on peut faire relativement tôt, mais on peut le faire aussi beaucoup plus tard. Et l'autre est quand même... C'est même un boss optionnel, l'autre. Donc... Voilà. C'est un boss qu'on peut totalement zapper si on fait le jeu de base et qu'on peut découvrir sur le tard, quoi.
D'accord. Moi, je fais partie des gens qui ne sont pas allés assez loin dans Elden Ring. J'ai regardé les autres jouer.
Et oui,
parce que ça, c'est ma question pour vous. J'admire Elden Ring, j'ai trouvé ça original sur la façon de faire. Les Dark Souls, je me suis arraché les cheveux à l'époque, donc From Software, je les déteste. Voilà, même si j'adore Bloodborne. Mais c'est vrai qu'il y a eu une hype énorme autour de ce jeu, qui était tellement différent de ce qui se faisait sur le moment. Est-ce que c'est pas quand même un jeu de niche, les amis ? Carole, vas-y, hurle-moi dessus.
Non, je vais pas, parce que moi, j'étais comme toi avant et je me disais, mon Dieu, les univers des FromSoft, c'est incroyable. J'ai tellement envie de découvrir mieux ces univers, que ce soit les Bloodborne.
Et tu balances ta manette au bout de 5 minutes.
C'est très difficile parce qu'il faut prendre le temps, il faut de la patience, etc. Mais grâce à Elden Ring, qui s'est ouvert dans tous les sens du terme, parce qu'il offre un monde ouvert, effectivement, contrairement aux autres Souls, et qui, effectivement, a rendu la tâche plus facile aux joueurs, donc c'est ouvert à un autre type de joueur qui avait peut-être peur de se lancer dans ce genre d'expérience. Il a changé les choses, en fait. Il a changé la donne. Tu peux aller dans ce monde, aller dans un lieu et te dire, oh là là, je suis pas assez fort, mais tu vas d'un autre côté pour prendre de l'expérience, farmer, comme
on dit. La liberté de faire.
Il y a cette liberté, voilà, qui permet de s'améliorer sans avoir l'impression de te buter contre le même boss pendant 3-4 heures d'affilée, d'être devant un mur et finalement d'abandonner parce que tu satures. Là, il n'y a pas cette sensation-là. Et c'est un monde qui est tellement, mais incroyablement riche. Ça pousse à l'exploration, tu te perds. Il y a un level design absolument incroyable. Et donc, forcément, ça a attiré plein de joueurs nouveaux qui ne se sentaient pas capables auparavant, mais à qui Elden Ring a donné des armes, les outils, en fait, pour tout simplement rendre la plus facile. Et pour moi, ça a tout changé. Je veux dire, n'importe qui, même qui trouve les Souls difficiles, tu vas sur Elden Ring, c'est beaucoup plus accessible. Pas plus facile, mais plus accessible. Et ça change tout.
Tu es d'accord avec son analyse ?
Elle a tout dit. Voilà. Ce qui est cool avec ce jeu, c'est qu'il y a cette modularité. Tu peux faire ton expérience un peu à la carte. Et ce que je me dis, en fait, c'est que si j'étais un joueur un petit peu frustré de ce genre de jeu, je serais quand même assez triste parce que c'est des mondes, From Software arrive à faire des mondes incroyablement riche, détaillé. Il y a énormément de références littéraires, religieuses, de mangas. Donc, c'est des univers qui parlent à beaucoup de monde. Tu l'as dit, Dark Souls, tu as dit Bloodborne, et c'est tout de suite, tu mets un univers dessus, tu sais les différencier par rapport à d'autres jeux. Et donc, ça doit frustrer quand tu n'as pas le temps ou la volonté de rentrer dedans, parce que c'est assez difficile. Et justement, Elden Ring a cassé tout ça. Maintenant, tu peux rentrer là-dedans, tu as des outils, tu as des cendres d'invocation pour t'aider, tu peux aller à droite, à gauche pour chercher une arme complètement craquée si tu as envie. Le truc, c'est que tu ne le sais pas au début, mais à force, tu apprends. Et c'est ça qui fait que le jeu est dingue, en fait. Ouais.
Faut insister pour se mettre dedans ?
Un peu.
Parce que moi, j'ai l'impression que c'était un jeu qui me rejetait, en fait.
Voilà, qui te disait non, je ne te veux pas.
Tu vois, comme Bloodborne, j'ai adoré.
Alors,
c'est exactement ce que tu disais. J'ai adoré
c'est
dur, l'univers. Bloodborne. J'avais fait les Dark Souls, je me suis déjà arraché les cheveux il y a des années dessus. Ouais. Je pense que j'avais plus envie de ça. Et Bloodborne, j'avais adoré l'univers.
Oui, voilà.
Mais j'ai eu l'impression que le jeu me disait va-t'en, en fait.
d'un moment.
C'est ça.
Et Elden Ring, j'ai eu un peu ça. C'est-à-dire que moi, j'y suis allée. La paix à l'esprit et tout. Et en fait, au bout de 5 minutes, je suis descendue dans les catacombes et on m'a expliqué qu'il ne fallait pas que je reste, quoi.
Donc, mais tu le ressens déjà toi-même par rapport à la difficulté.
Ah oui, je l'ai bien compris.
Ouais, voilà. Ouais. Mais tu l'as dit, c'est toujours les univers qui te happent dans ce jeu. Et donc là, Elden Ring, c'est un peu le melting pot de tout ce qu'ils ont fait. Tu peux vraiment moduler ton jeu, quoi. Donc,
c'est pas un couloir, en fait.
C'est pas un couloir,
C'est pas un couloir comme, effectivement, par exemple, Bloodborne. Alors, tu peux aller farmer dans Bloodborne, dans les Souls, tu peux refaire les niveaux, etc. Là, pour le coup, effectivement, je pense que la qualité d'Elden Ring, c'est que tu peux te faire ton aventure à ta sauce. T'es pas obligé de commencer par telle ou telle zone. Alors, il y a quand même une certaine logique, si tu suis les sites de grâce, etc. Mais tu peux faire un peu comme tu veux et finalement ne pas t'ennuyer et pas être dans un couloir. Il n'y a pas de répétitivité, en fait, comme ça pouvait être le cas sur les jeux précédents, parce que tu peux profiter du monde ouvert, découvrir, etc. Et évoluer sans même t'en rendre compte. C'est ça, en fait, la force d'Elden Ring.
C'est ça qui est marrant, c'est que probablement les gens qui vont débuter avec Elden Ring, ils vont jouer une seule arme, une seule armure, une seule incantation, peu importe. Et ces gens-là, une fois qu'ils auront peut-être terminé l'expérience, ils vont ouvrir une porte avec toutes les autres armes qu'ils n'ont pas testées, toutes les autres techniques, toutes les autres zones qu'ils n'ont même pas explorées, parce que sur une première partie, tu ne peux pas tout faire. Enfin, le jeu est beaucoup trop long, beaucoup trop riche. Et c'est ça, c'est à tiroir, en fait. Et c'est ça qui est incroyable.
Mais alors, c'est marrant ce que tu dis. J'ai vraiment l'impression, pour avoir connaître des gens qui jouent plus... pas qu'à ça, mais qui passe beaucoup de temps, que c'est un jeu qu'on finit et auquel on revient. Ce qui, quand même, n'arrive pas souvent de nos jours. C'est rare, les jeux qu'on va refaire quand ils sont aussi récemment, enfin aussi proche de la première fois qu'on l'a terminé.
Ouais, après, c'est vraiment la marque aussi des jeux From Software. C'est vraiment tu peux faire des builds pour recommencer une partie. Enfin, tu peux jouer magie, tu peux jouer corps à corps. Et puis, il y a toute cette question de narration. On n'en a pas trop parlé, mais la narration, tu n'es pas servi sur un plateau. Donc, au fur et à mesure de tes parties, tu découvres d'autres pans de narration dont tu n'avais même pas idée, en fait.
Ouais, complètement. Je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Ça tombe bien sur ce jeu. aujourd'hui, From Software a la réputation de faire les jeux beaux, univers, mais surtout les jeux les plus durs. On a fait cette émission avant l'émission, donc je sais ce qu'il va me dire.
Voilà.
C'est ce que je vais dire. De mon temps, parce que nous ne sommes pas un plateau de petits jeunes, nous avons vécu, les débuts des jeux où les sauvegardes n'existaient quasiment pas, mm-hmm. où les jeux étaient volontairement durs aussi, les créateurs s'amusaient même à les faire durs. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les jeux From Software ne sont pas d'un niveau qui était le niveau d'antan, eux, ils sont restés, et c'est à côté que les jeux deviennent trop faciles, donc eux passent pour des jeux très très durs. Mais est-ce qu'on n'a pas les standards, en fait, de ce type de jeu-là d'une époque? Je ne parle pas de l'univers, de la créativité, je parle de la réputation de difficulté de From Software et de ces jeux-là. Est-ce qu'on ne s'enthousiasme pas sur Elden Ring en disant c'est très dur, parce que les autres aujourd'hui sont devenus trop faciles et qu'il faut faire attention de protéger le joueur qui s'en sorte et tout? Eux, ils ne se posent pas la question de savoir si on va y arriver ou pas. Hein, donc,
ça, c'est sûr.
Alors, vous avez une heure. Non, c'est pas vrai, il reste pas assez long.
Très rapidement, pour moi, c'est pas que les jeux à côté sont trop faciles, c'est que les jeux à côté proposent plusieurs modes de difficulté aujourd'hui. Donc, tu as la possibilité de faire les jeux.
Tu as raison, il y a eu cette question-là de voilà. Est-ce qu'on doit faire un mode facile dans Elden Ring?
C'est ça, il y a eu. Et moi, à un moment donné, même par rapport à Sekiro, je posais la question. L'univers était tellement clair, j'arrivais pas à faire 10 mètres. Donnez-moi un mode facile. Et finalement, Elden Ring m'a aidé à faire Sekiro. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Il y a eu un vrai chemin. Je pense que les jeux sont pas trop faciles et que c'est pas par rapport à ça. Je pense que déjà avant c'était dur aussi parce que il y avait la maniabilité, la jouabilité, c'était très rigide.
Mais on est obligé de
manettes.
On est obligé de se s'adapter.
On
s'adapte. Il n'y a pas la conduite assistée, quoi.
Mais c'est la leçon aussi des FromSoft. T'es obligé de t'adapter si tu veux avancer. Et s'adapter, ça prend aussi du temps. C'est un apprentissage. C'est mais je pense pas que les jeux soient trop faciles. Il y a des jeux plus faciles que d'autres, mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux que tu peux gérer.
Il y a des jeux beaucoup plus durs aussi encore aujourd'hui. Hein. Sur d'autres aspects, tu reprends des Ninja Gaiden, des choses comme ça qui sont pas si vieux. C'était des jeux beaucoup plus durs que FromSoft, hein, mais largement. T'as des plateformeurs aujourd'hui qui sont incroyablement durs. Hein.
On a l'impression que aujourd'hui un jeu, voilà, Elden Ring. Alors on en parlait dans une autre émission. Par exemple, Prince of Persia: The Lost Crown, qui demande des mécaniques de jeu quand même au millimètre près, comme les premiers. Passe. Alors, je parle de la mécanique de gameplay. Hein, je ne parle pas du jeu, du style de jeu, mais qui ont l'air hyper durs. Et les gens sont oh là là, c'est dur. Mais le premier Prince of Persia. J'ai embroché je ne sais combien de fois le personnage sur les pics.
Après, c'est un problème une question aussi de génération.
Sans être en mode dur, hein.
Par exemple, nous qui sommes un peu plus âgés, qui avons fait les jeux de l'époque, on se dit, oh là là, par rapport à l'époque, c'est facile. Et
c'est
des jeunes, c'est peut-être c'est.
Est-ce que c'est une vue de l'esprit?
Bah, je pense oui aussi, parce que des jeunes joueurs qui arrivent et qui découvrent un peu le jeu vidéo, peut-être qu'ils n'ont pas ces marqueurs-là, tu vois, ils n'ont pas ces références-là. Donc, encore une fois, ça dépend du niveau de difficulté auquel tu joues. Prince of Persia, il est très difficile. The Lost Crown, excellent jeu d'ailleurs, je le conseille entre parenthèses. Mais sur d'autres, il peut avoir un petit côté FromSoft, mais peut-être sur d'autres leviers, par exemple, sur la réflexion. La difficulté, ce n'est pas que des boss dans lesquels il faut apprendre les patterns. Où il faut avoir des réflexes. Des jeux qui sont difficiles intellectuellement.
Aussi, ouais. Après, Prince of Persia, c'est vraiment l'archétype du Metroidvania. Donc, Hollow Knight, c'est pas si facile que ça non plus. Guacamele, c'est pas facile du tout.
Ori,
c'est dur à des moments, même s'ils avaient mis un petit truc pour faire ses checkpoints perso, qui était quand même une bonne idée. Mais non, je pense qu'on a moins de temps aussi aujourd'hui à consacrer. Avant, on avait un jeu pour jouer pendant les vacances. Je fais mon boomer,
mais c'est vrai.
Et puis les jeux étaient difficiles parce qu'on venait du monde des bornes d'arcade, donc le but c'était de nous faire raquer et de nous faire perdre rapidement. Donc tout ça, ça avait évolué.
Voilà.
Aujourd'hui, je pense que la difficulté sur les FromSoft, c'est même plus un. Faut plus que ça soit un sujet à mon sens parce que.
C'est une marque de fabrique aussi.
C'est une marque de fabrique parce qu'on veut toujours nos boss bien difficiles parce que triompher d'un boss sur lequel t'as galéré, c'est une sensation incroyable.
Ouais.
Mais c'est accessible, c'est ça le truc.
Et surtout Elden Ring. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, effectivement, donc on avait peu de jeux et il fallait que ça dure parce que c'était beaucoup plus court. Moi, je me souviens de Tortue Ninja sur la NES. Niveau sous l'eau nous a beaucoup marqué.
Il y a 30 ans et plus, quand on finissait un jeu,
On était hyper contents. Je pense que de ma jeunesse, je ne sais pas combien j'ai fini de jeu, peut-être un Zelda et encore.
Ah ouais, mais c'est,
donc, aujourd'hui, j'en termine beaucoup plus.
Bah, bien sûr. Et puis aujourd'hui, c'est ton métier.
Oui, aussi, ça aide. Chose. Donc voilà, on va finir sur cette page Elden Ring. Donc, on répète, Shadow of the Tree, 21 juin.
21 juin, oui, c'est ça.
Vous serez au taquet.
D'abord. On est déjà au taquet.
On est déjà remis dans le jeu pour reprendre les bonnes habitudes. Ouais. Ils seront retrouvés évidemment sur leurs chaînes respectives pour suivre ça. On va passer dans une partie à quoi on joue un peu particulière parce que je voudrais qu'on parle des jeux de simulation. On va vous donner plein d'idées de jeux étranges à faire. Parce qu'il y a une... Écoutez, on ne peut pas y passer. Il y a une grosse tendance des jeux de simulation. On a vu encore Supermarket Simulator. Alors, quand je parle de jeux de simulation, je ne parle pas de Flight Sim, qui est beau, léché, qui est un vrai jeu de simulation.
Ah oui,
très dur. Je parle des jeux un peu plus foutraques qu'on voit popper dans tous les sens à côté. C'est le bon mot, quand même.
Ah oui, oui.
C'est fou.
Et donc, il y a eu un engouement de fou sur Supermarket Simulator, qui est quand même, rappelons-le, un jeu où vous ouvrez une supérette, vous devez mettre tous les produits sur les étals, vendre et arnaquer vos clients si vous pouvez.
Évidemment.
Évidemment. Expliquez-moi pourquoi ça marche et pourquoi ça marche notamment sur Stream, YouTube et compagnie. Je veux comprendre.
Mais parce que pour moi, tu vis une autre vie. En fait, ces jeux-là te permettent de vivre une autre vie que tu n'aurais peut-être pas soit l'opportunité de vivre ou soit envie de vivre.
Non,
réellement.
Mais il y a plein de boulot à prendre dans la réalité.
Oui, mais quelque part. Et puis, ça ne prend pas la tête. Je pense que c'est quelque chose d'assez rafraîchissant, c'est détente, ça divertit. C'est des jeux un peu pop-corn, tu vois, t'en prends un peu, tu t'arrêtes. Ce n'est pas des jeux dans lesquels tu vas te lancer comme Elden Ring et rester des heures et des heures. Et je pense qu'il y a un côté très satisfaisant, très plaisant.
Je pense que tu peux y rester des heures. Je vous fais faire le grand écart. Elden Ring, Supermarket Simulator.
Ouais, c'est pas du tout le même. Mais moi
j'ai pris énormément la face sur Power Wash l'année
dernière. Oui.
Et juste parce que ces jeux, moi, ils me fascinent en fait. Tous ces jeux qui gamifient le travail, ça me rend fou en fait. J'ai envie de faire le truc au millimètre près. J'ai envie de pinailler comme jamais. Et je ne sais pas pourquoi, en fait.
Mais Power Wash Simulator, par exemple, moi, j'ai beaucoup trop d'heures dessus, j'avoue.
Moi aussi,
c'est vrai.
Ah, mais c'est horrible. Ah, mais moi, je suis un pigeon à jeu de simulation. Mais t'imagines même pas, ça me fait... On en parlera après, j'en ai fait un hier soir, qui est n'importe quoi. Mais je me suis marrée. Mais Power Wash, j'ai acheté l'extension Retour vers le futur.
C'est vrai.
C'est pour te dire
voilà.
Quel point j'en suis. Après avoir fini celui sur Tomb Raider et Lara Croft.
C'est super addictif, en fait. C'est simplement satisfaisant et addictif.
Est-ce que c'est le côté...
Moi, je crois, ouais.
En fait,
moi,
on ne réfléchit plus à ce qu'on fait. Au bout d'un moment. Enfin, on réfléchit plus.
Il y a un côté mécanique, quoi qu'il arrive. Mais après, il y a différents jeux, je pense, dans les simulateurs. Il y a les jeux un petit peu maniaques. Maniaques, moi, comme j'aime les appeler. Power Wash, c'est un jeu de maniaque, tu vois. Genre,
moi,
j'adore, tu vois.
Le Land Mowing Simulator.
Pareil.
Est-ce que tu as fait ça?
Non.
C'est la même chose avec la pelouse.
J'en fais très peu. Et à la limite, je préfère la passer en vrai.
Alors, Land Mowing Simulator, pour ceux qui ne connaîtraient pas, toi, tu l'as fait, je sais, Playmo.
Mais c'est dingue.
C'est un jeu qui consiste à passer la tondeuse.
C'est fou.
Alors, tu passes la tondeuse. Alors, c'est très anglais dans l'esprit parce que tu as ton petit cottage. Donc, tu es appelé à aller passer la tondeuse et puis il faut que tu fasses épaisseur et tout. C'est n'importe quoi. Mais soyons clairs, c'est n'importe quoi. Moi, à la fin, je faisais...
Mais c'est satisfaisant, en fait.
Alors, pour ceux qui voient les images,
c'est satisfaisant. T'as envie de faire les lignes bien.
Et c'est ça. En fait, c'est exactement comme Power Wash Simulator. C'est un jeu de maniaque.
Mais oui.
On devient complètement maniaque dans ces jeux-là. Et donc, Land Mowing Simulator, moi, je faisais à la fin des dessins dans la pelouse. C'était n'importe quoi. Mais c'est ça, il y a un côté hyper satisfaisant.
Oui, voilà. C'est un peu comme quand tu regardes des vidéos de savon.
Mais oui,
j'avoue. Ah oui, d'accord.
Hein, le découpe de savon, c'est satisfaisant à l'oreille, mais aussi visuellement. Et là, visuellement, j'ai envie de le voir.
T'as envie d'aller voir ce que ça fait.
T'as envie que ça soit bien coupé, t'as envie d'avoir le bon outil.
Si tu veux, dans le même genre, j'ai testé qui sort cette semaine Hotel Renovator.
Ah. Oh, ça doit être tout sale et
alors, nettoyer. C'est au-delà. Alors, si vous avez aimé nettoyer la crasse dans Power Wash Simulator, Hotel Renovator, alors, c'est extrêmement beau.
Attends, c'est Focus ?
C'est Focus qui fait ça.
C'est rigolo.
C'est extrêmement
beau. Oh oui.
Franchement, c'est très beau. Attends. Tout est beau. Mais c'est... Alors voilà, il se gare à peu près comme moi.
Voilà, sur le trottoir.
C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que vous arrivez dans un vieux bâtiment que vous... ça a l'air d'être New York ou je ne sais quoi, dont vous avez globalement hérité, qui est dans un état... Il y a des meubles en vrac partout, tout est dégueulasse. Voilà, ça ressemble à ça. Il faut tout nettoyer, tout retaper, tu pètes tous les murs. Donc c'est un défouloir.
Mais là, c'est même le best-of de tous les simulateurs.
Ah,
tu dois nettoyer...
tu décores, tu décores. Ouais.
C'est une aventure.
Donc, c'est une vraie aventure. Au début, tu te dis, c'est pas possible, je vais passer 3 siècles à faire ça, je ne vois pas l'intérêt. Et j'ai découvert que j'ai pas trop de talent de déco. Voilà. En fait, ça sert à ça aussi, les simulateurs. C'est pour savoir ce qu'on va faire.
Être révélateur.
Donc, Hôtel Rénovateur, voilà, vous pouvez faire n'importe quoi.
Wow. Mais c'est en fait, pour moi, c'est ça le secret de ces jeux, c'est que c'est satisfaisant. Parce qu'une fois, c'est comme quand tu fais ton ménage. Parce que malheureusement, nous connaissons tous.
Ouais, mais ménage simulateur, tu vois, ça me tente tout de suite.
Et oui, forcément,
c'est moins fatigant.
Mais t'as un côté effectivement satisfaisant quand t'as fini ton ménage, quand t'as fini de ranger ta piole, tu vois. Et je pense que c'est la version virtuelle de ces choses-là, tout
oui,
simplement.
Oui, moi ça me parle, mais ça parle peut-être pas à d'autres gens, tu vois. Moi, je suis un maniaque, donc oui, ça me parle, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais je pense qu'il y a un simulateur pour tous les pour corps tout. De métier, tout. Enfin,
alors,
tout
toi,
est possible,
c'est,
en fait.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, toi, t'es maniaque, ça te parle. Moi, j'ai tendance à être un peu bordélique.
Voilà. Okay.
Et en fait, ça me fait délirer de faire tout, mais au carré, dans ce jeu-là. Donc c'est vrai que...
C'est pas la vraie vie, donc...
On dit à chaque fois, on me dit, mais pourquoi tu fais des jeux de simulation, va faire ça en vrai. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas pareil. Donc hier, j'ai testé Taxi Life.
Ah oui, Taxi Life.
City Driving Simulator, où on est dans Barcelone. J'adore Barcelone, donc c'était pour moi un piège facile d'y aller. Et où on conduit un taxi. Alors... Pareil, le jeu est beau, mais alors c'est n'importe quoi. Les persos ont tous la même tête sur le côté. Il m'a fallu une heure avant de comprendre comment je pouvais prendre des clients. J'ai cabossé mon taxi parce que... Mais je vais dire que c'est parce que les Espagnols conduisent pas bien dans Barcelone.
Oh. Voilà, exactement.
Le but du jeu, c'est juste de tourner en rond.
Oui, voilà,
et de faire des missions.
C'est quoi le but d'avoir le plus
oui,
de clients
client,
tu vas customiser
okay.
ta voiture.
Voilà.
Il faut que tu aies
le
une bonne note.
De conduire, quoi.
Ah non, mais c'est Uber Simulator, parce qu'ils
oui,
vont te donner une note et te dire si t'es bien ou pas.
Il n'y a que Barcelone bah,
oui. Là, c'est que Barcelone.
Parce qu'ils devraient justement rajouter des villes. Rouler dans Tokyo, par exemple,
ah bah,
là, je me fais
DLC,
direct.
Hein,
mais regarde,
mais
les persos ont tous la même tête sur le même côté, ils sont habillés pareil.
Oui, mais c'est pas
le jeu de base. Attention, va, c'est comme moi, pouf, tu piles juste dedans et tu rentres dedans. Ça pourrait être mon image. Mais donc voilà, non. Ouais, mais mon taxi finissait un peu comme ça. Ces jeux sont, je vais pas dire nuls parce que c'est pas très sympa, mais voilà, on parlait d'Elden Ring, on n'est pas dans la même idée de concept. J'ai l'impression que c'est des jeux qui peuvent être faits hyper facilement et qui ont un succès de fou. Alors toi, Carole, tu voulais me parler de Minami Lane.
Oui, c'est pas vraiment... Enfin, si, on pourrait le mettre dans la simulation.
C'est ça, parce que... simulation aussi.
Mais oui, parce que tu te retrouves en fait dans un petit univers. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui a beaucoup de succès, beaucoup plus que ce que les développeurs imaginaient. Il s'est vendu à 30 000 exemplaires, alors qu'ils pensaient en vendre...
une centaine, ils avaient dit.
Une centaine, tu vois, c'est ce qu'ils avaient dit. Et c'est très, très mignon. Ça fait un peu penser à du Animal Crossing. Et en gros, tu vas devoir construire des boutiques, des bâtiments, des sources d'eau chaude. Tu vas devoir aussi... par exemple, construire des restaurants et proposer la meilleure recette de ramen, décider des prix, pour que les gens de cette petite ville soient heureux, tout simplement. En fait, le but, c'est que tes habitants respirent la joie
chose,
de vivre. Ouais. Tu es censé aussi rendre les environnements le plus agréable possible pour que des chats viennent dans la ville, parce que c'est un élément important. Voilà, c'est simplement rendre les gens heureux dans une petite ville. C'est un micro-jeu.
Tu fais ta rue, en fait. Quoi.
C'est
tu
ça,
fais ta rue,
fais ta rue.
Commerçante un petit peu.
Oui,
sympa, quoi.
Avec le petit tanuki en mode... voilà.
Je trouve que ce jeu est à la croisée des chemins de deux choses.
Ouais.
Les jeux de simulation et les jeux cosy.
Ah ouais.
Moi, tu m'as donné follement envie. J'avais juste entendu de nom parce que j'ai vu que ça commençait à faire parler et j'y avais pas du tout. Je m'étais pas du tout penchée dessus. Et c'est vrai que tu m'as donné envie de le faire.
Oui, c'est trop
et
bien.
Et je pense qu'on est à la croisée des chemins sur celui-ci. On parlera dans une autre émission. Moi, j'ai fait Garden Life aussi, donc ce jeu de simulation qui est pareil. C'est-à-dire que on jardine.
Okay.
Mais il y a ce côté très cosy, vraiment slow, qui fait du bien. Et je pense que là, on est vraiment sur ton Minami Lane à une croisée des chemins du jeu de simulation.
Ouais.
Et voilà, alors ça c'est le jardin, c'est pareil, vous récupérez un jardin qui est un peu friche.
Et souvent ces jeux-là, t'es en vue première personne, hein. C'est ça aussi
qui
fait que t'es à la place du...
Si vous avez galéré dans Animal Crossing avec votre jardin qui ressemblait à rien très vite, sachez qu'il y a le même potentiel dans celui-là.
Voilà.
Moi j'ai commencé à faire pousser des rosiers et trucs, je suis envahie, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas gérer.
Bien.
Je pense que les jeux de simulation c'est drôle, mais je ne sais pas gérer. Moi j'arrive à cette conclusion-là.
Ouais.
C'est des métiers que je peux pas faire en fait.
Non mais c'est ça. Non mais si moi chez moi je passais l'aspirateur et que j'avais une petite étoile qui popait quand je l'ai bien fait, tu vois, peut-être que je le ferais
encore
ça. Plus. C'est ça.
Évidemment.
Bien, en fait.
Évidemment.
Si mon Dyson il faisait ça, tu vois, genre il m'encourageait quand j'ai bien.
Voilà. Une idée.
Faites-le, hein, ça c'est bien.
On arrive au bout de cette émission, Jean. Sachez-le. J'espère qu'on vous a donné envie de jouer à Elden Ring ou à des jeux de simulation.
Ou à Minami Lane.
C'est pour ça. Plémo, merci d'être venu.
Ah
ça
bah,
va.
Merci.
C'était pas si
ouais,
terrible.
C'était très bien. Non, très cool.
Tu vois,
merci de m'avoir reçu.
Alors où est-ce qu'on te retrouve?
Eh bien sur ma chaîne Plémo sur YouTube pour des builds d'Elden Ring, pour beaucoup trop de Elden Ring.
Pour se préparer à Elden Ring.
Voilà, ouais, pour se remettre en jambes. Ouais. J'aide les gens un peu là-dessus et j'essaye d'enlever ce truc que ces jeux-là sont trop difficiles. Ils le sont un petit peu, mais il faut juste un peu de temps et d'explication et ça.
Et tu le fais très bien. Je voulais te le dire quand même, parce que voilà, pour quelqu'un comme moi qui est fâché avec Elden Ring, j'ai regardé et oui, franchement, c'est très incitatif.
Bah, super.
Je vais me préparer comme ça.
Ah bah.
Et en tout cas, tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux.
Ah bah, avec plaisir.
Carole, bon, toi, tu connais la maison ici.
Je connais la maison, voilà. Et moi, en ce moment, bah, pareil, hein, des vidéos diverses et variées. On prépare des tests en ce moment, notamment celui de Rise of the Ronin, dont on parlera certainement.
Voilà, exactement, qui voilà. arrive au programme de la semaine prochaine dans Multijoueur.
Voilà. Et plein de choses, et voilà, des vidéos d'actualité, du peur sous la couette, beaucoup de jeux d'horreur, beaucoup de Resident Evil aussi. Hein. Même quand il n'y en a pas, il y en a.
Forcément, et le réveil, j'y vais.
Il y en a tout à fait. Le réveil, j'y vais sur Twitch aussi, c'est vrai. Le réveil, j'y vais. Donc, Playmo m'a fait tout le logo, l'habillage et tout. Des news, j'y vais le matin sur Twitch.
Du matin au soir, Carole.
Ouais,
sur sa chaîne, sur ses chaînes.
Mes chaînes.
Et puis, bah, cette émission multijoueur, vous la retrouvez évidemment en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co et évidemment sur la chaîne YouTube. Nous aussi, on y est. Bon, moins bien qu'eux, mais on y est quand même. Et puis, en podcast partout. Parce que voilà, on peut nous réécouter ces gens formidables que nous avons eus. Merci à vous deux d'être venus.
Merci.
Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Multijoueur, vous l'avez compris, pour parler de beaucoup de jeux qui arrivent. Rise of the Ronin. On parlera aussi de Princess Peach qui arrive et Dragon's Dogma 2. Ça, c'est pour le programme de la semaine prochaine. Vous avez plein de jeux à faire en attendant. Beaucoup de jeux de simulation, n'oubliez pas. Ou préparez Elden Ring. Et on se dit à très vite. Jouez bien.